Fatima Samlali pour la suite de nos entretiens autour des femmes artistes issues de culture musulmane au pluriel. Et bonjour Naïma.
Bonjour.
Fatima.
Oui, non,
Naïma,
c'est
ma faute.
C'est ça, David.
Oui.
Il n'y a pas de souci.
Bonjour Fatima.
Bonjour France.
Alors, merci beaucoup de participer à nos entretiens.
Mais c'est moi qui vous remercie pour votre accueil chaleureux.
Et donc, nous sommes curieux de connaître ton parcours et d'avoir un enrichissement grâce à ton regard et ton expérience en tant que femme artiste de culture musulmane. Alors, on va commencer l'entretien. Je vais te demander de me faire une brève carte de visite de toi-même en 2-3 minutes.
Il est toujours difficile de parler de soi-même, ça c'est clair. Voilà, je suis artiste, je pense, depuis que je suis née, sans vouloir être prétentieuse, mais j'ai toujours adoré dessiner. J'ai toujours été attirée par cet univers, mais qui était un petit peu inaccessible pour moi. J'ai voulu étudier l'art. Mais je parle d'il y a une bonne vingtaine d'années, hein, donc ce qui était un petit peu difficile au niveau des académies. Je suis une femme musulmane voilée et je pense être artiste jusqu'au bout des doigts, mais quand je me présentais aux académies, on me refusait parce que j'étais voilée, tout simplement. Et je n'avais pas la force à ce moment-là, à l'âge de mes 18 ans, de combattre le système, le système scolaire, tout simplement. Je me suis quand même tournée vers la communauté musulmane pour essayer de trouver un appui, trouver peut-être une aide, un moyen d'entrer dans cette académie malgré tout. Mais à ce moment-là, peut-être que c'est toujours d'actualité, entre guillemets, parce qu'il y a quand même une certaine ouverture et une certaine évolution. C'était absolument tabou et fermé, l'art, il ne fallait pas en parler. Enfin, c'était pas quelque chose de sérieux et ça restait du domaine un petit peu, entre guillemets, je dis illicite, pour la communauté musulmane. J'ai laissé tomber, sincèrement, j'ai dû me taire cette passion, taire comment dire, parce que c'est vraiment une essence divine qui a été créée dans mon âme, en tout cas, pour moi je le ressens comme ça. Depuis toute petite, mais vraiment toute petite, j'avais toujours mes carnets griffonnés, mes bancs étaient griffonnés. Là où je passais, en fait, on me repérait parce que je dessinais, j'avais un crayon à la main, un bic à la main, tout ce que je pouvais. Je colorais les trottoirs à la craie quand j'étais plus jeune, donc voilà. Mais j'ai dû étouffer tout cela et j'ai dû, entre guillemets, me ranger un petit peu à ce que... La communauté, quelque part, mais quand je dis la communauté, c'est la communauté belge, hein, c'est là où je vis, ce qu'elle attendait de moi, tout simplement, quelque part. Silencieusement, vivre sa petite vie de famille. Je ne pouvais pas faire d'études quelconques de toute façon, puisque j'étais voilée, donc j'étais vouée donc, à autre chose. Je me suis mariée, j'ai trouvé le bonheur quand même. Et là, j'ai développé avec mon époux l'ASBL Les Fourmis. C'est une ASBL scout et guide musulman qu'on a tenu exactement 27 ans. 27 ans, on a été sur le terrain, donc avec les jeunes, avec des animateurs, et on a vu du monde défiler. Et on a fait des partenariats avec d'autres unités scouts et d'autres organismes. C'était un enrichissement, c'était vraiment un enrichissement. Mais le fait d'être au contact des jeunes, ce que j'avais remarqué, c'est que l'art commençait à repointer le bout de son nez, au fond de mon cœur, ça me titillait. Et les jeunes, c'est impressionnant parce qu'ils font ressortir ce qu'il y a au fond de toi, quelque part. Et ils l'ont fait ressortir. Donc j'ai essayé de transmettre ce que je savais, ce que je pouvais à ces jeunes. Mon époux, constatant cela, me dit « Non, il faut que tu fasses quelque chose, on ne peut pas rester comme ça, ce n'est pas possible. » On a entendu parler donc, de l'Académie de Molenbeek.
Qui est quoi particularité ?
Juste qu'elle acceptait les femmes voilées. Mm-hmm. C'était un endroit où je pouvais dessiner. En fait, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. C'était un endroit où je pouvais dessiner, apprendre, aller encore plus loin, et ils acceptaient les femmes voilées. Du coup, mon époux m'emmène, parce que moi j'étais toujours hésitante, parce qu'il y a quand même une fracture qui s'est créée au sein des institutions, parce que à chaque fois la porte s'était fermée. Lui, il m'a littéralement déposée devant l'académie, il m'a dit, tu rentres, tu t'inscris, tu ressors une fois que tu es inscrite. Je suis restée devant cette porte en train de mijoter, de cogiter, et après je me suis dit, bon, je vais foncer, je vais y aller. Je me suis inscrite, et alors là, c'était en dessin et en pluridisciplinaire. Au départ, c'était pour créer une bande dessinée, c'était mon but. Et donc, c'était vraiment pour créer une bande dessinée que je m'étais inscrite là-bas. Alors, je rentre, donc je m'inscris, et là, c'est quand j'ai commencé les premiers cours, c'était une ouverture sur le monde. C'est vraiment. J'ai découvert une seconde famille, un nouveau chez moi, parce que je passais plus de temps à l'académie que chez moi pratiquement. J'étais dans tous les. C'est des cours qui sont donnés à horaires réduits, donc il y a à peu près 18 heures, presque 20 heures selon les cours où on s'inscrit, mais j'étais presque 20 heures semaine à l'ACA et j'ai fait ça pendant 12 ans. Cours du jour et cours du soir, j'ai combiné les deux, j'ai vraiment combiné les deux. J'ai et combiné la vie de famille parce que j'avais des enfants qui étaient plus ou moins jeunes. J'ai trois enfants. Bon, maintenant ils sont grands, le dernier a 17, donc je peux prendre un peu plus de temps. Mais à l'époque, ils étaient quand même plus jeunes et voilà, je devais m'en occuper. Mais de toute façon, j'essayais de ne pas léser ma famille, c'est pour ça que j'essayais de créer. Le soir et la nuit. C'était le moment idéal pour moi. C'était vraiment un moment de silence, un moment de création. C'était purement jouissif, hein, je dois avouer. Hein. J'ai fait des connaissances, en tout cas à l'académie, de manière extraordinaire. Et j'ai commencé tout doucement donc, à exposer et à aller un petit peu plus loin dans mon art, et à découvrir toujours. En fait, on est tout le temps dans la découverte. Quand on est dans l'art, on est tout le temps vraiment dans la découverte de soi, ce qui nous permet de découvrir l'autre. Et de donner une ouverture aussi, d'être tolérant et d'accepter les autres tels qu'ils sont, quoi. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais en tout cas, pour moi, c'était. C'est vraiment un épanouissement, mais je veux dire, un moment de spiritualité intense avec mon créateur grâce à ce qu'il m'a donné. Et oui, voilà. Voilà. Ah, je suis complètement en connexion. Lorsque je crée, je suis en connexion, comment est-ce qu'on peut dire? Pour moi, c'est avec le créateur, mais ça peut être avec l'univers, avec la nature, avec vraiment être en harmonie. Et on sent où est sa place. Et vraiment, je sens que ma place est là. Enfin, c'est là où je me sens le mieux. Enfin, voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue.
Merci. Et
Pardon.
c'est une carte de visite un peu différente des autres, mais c'est très puissant ce que tu nous partages parce que vraiment, l'art a été fondamental dans ta vie. Il y a probablement beaucoup de personnes qui ont peut-être cet appel-là, qui n'ont pas la chance de pouvoir ou pratiquer,
Oui.
d'y avoir accès. Je vais te reposer des questions hyper basiques maintenant, quand même, je voulais
D'accord.
savoir quel âge as-tu?
J'ai 51 ans.
Tu as 51 ans, tu as trois enfants et tu t'es mariée à quel âge?
Je me suis mariée à 19 ans.
À 19 ans, tu avais fini ta rhétorique à l'école.
Oui, j'avais fini
Tu as
ma
fini ta
rhétorique.
secondaire des humanités Belgique. Tu dis que la communauté belge t'empêchait de pratiquer l'art, mais ta famille, comment ça se passait? Ta famille par
Non,
rapport
ma famille, je veux dire, au sein, vraiment
ton
ma petite
enfance,
famille, hein, mes
de tes
parents,
débuts vraiment.
mes débuts, non, mes parents, non, ils m'ont toujours accompagnée du moment que je fasse quelque chose que j'aime, je veux dire, ils n'ont jamais été un frein, parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est quand même grâce à eux, ça, je dois le reconnaître. C'est à leur manière, c'est pas, je veux dire, c'est pas. Comme nous, ce qu'on pourrait donner à nos enfants, mais à leur manière, ils m'ont ouvert leur porte, je vais dire, dans le sens de ressentir au plus profond de soi ce qu'on aime, on essaye de le faire. C'est ça qu'on va faire le mieux.
Beaucoup de spirituel, spiritualité dans ta famille?
Oui, quand même.
Donc toi, tu es née dans une famille pratiquante musulmane?
Exactement.
Tu es née en Belgique?
Oui, je suis née en Belgique.
Et tes parents?
Au Maroc.
Ils sont au Maroc, tous les deux?
Tous les deux, oui.
Et est-ce que tu peux nous partager un peu le parcours de ta famille?
Mon papa, il est venu à l'âge de 16 ans ici. Et il est venu vraiment à l'aventure. Il est venu à l'aventure parce qu'il ne connaissait ni la langue, c'était pour travailler. Il ne connaissait ni la langue et il ne savait pas où il débarquait. Alors il a débarqué dans cette grande ville, Bruxelles. Il était complètement perdu. Il m'a raconté, et lorsqu'il me racontait, il fait « je ne savais pas où aller, j'avais quelques francs ». Et il a repéré deux jeunes gens qui parlaient marocain et il commençait à les suivre. Il les a suivis un petit peu de loin pour essayer d'avoir de l'aide, un travail, un logement et où manger.
Et il
ne parlait pas français, non, mais pas un seul mot. Hein.
Il a suivi ces deux personnes
et ces deux personnes l'ont remarqué et puis ils l'ont pris sous leur aile. Et voilà, petit
c'était
à petit.
C'était des personnes bienveillantes.
C'était des personnes heureusement bienveillantes parce qu'il n'avait que 16 ans, papa.
Ça peut pas toujours être le cas.
Exactement. Mais c'était des personnes bienveillantes, ils ont pu le guider, lui trouver un travail. Puis le patron chez qui il travaillait lui a trouvé un logement et ainsi de suite.
Et qu'est-ce qu'il a fait comme travail ?
Il s'est formé en peinture. Il est peintre professionnel, enfin il était peintre professionnel, parce que bon maintenant il est à la pension. Mm-hmm. Mais il a fait toute sa vie.
Et il aimait ce métier ?
Oui, oui, oui. Il le faisait vraiment avec le cœur, je dirais, vraiment avec le cœur. Il se donnait à fond et je crois que nous, tous ses enfants, on a tenu ça de lui. Vraiment, quand on entreprend quelque chose, on essaye de le faire à fond. Voilà, ensuite, voilà, papa à 16 ans, il est resté pendant 2 ans. Il s'est marié à 18 ans, donc avec maman. Ah non, c'était comme à l'époque, hein. C'était les familles qui organisaient les rencontres et voilà, ils se sont...
Oui,
un mariage organisé et puis voilà, maman elle a été rapatriée ici et voilà, un an après je suis née.
Ah, t'es la première?
Je suis la première, je suis l'aînée d'une fratrie de 7.
Une fratrie de 7.
Oui. 5 filles, 2 garçons. Elle s'est sentie déracinée, maman. Elle était un petit peu isolée. Et puis, papa a fait en sorte qu'on habite avec un voisinage de même origine. Donc, et voilà, il y a des liens qui se sont créés de voisinage et puis de famille, petit à petit. Elle a créé son petit réseau social. Et comme les mamans de l'époque, enfin, je suppose que c'est comme les mamans de maintenant, hein, c'est tout pour leurs enfants et tout pour leur famille. Elles ont tout donné. Enfin, elle nous a tout donné, elle nous a donné sa vie. Elle a dédié sa vie à ses enfants. Elle ne voulait pas travailler parce que ce n'était pas vraiment dans la culture que la femme travaille à l'extérieur. C'était plus le travail d'éducation des enfants. Et voilà, elle a vraiment consacré. Donc nous, on a connu notre maman tout le temps à nos côtés, tout au long de notre vie. Et voilà. Enfin, on a eu cette chance-là. Je dois avouer qu'on a été gâtés par la vie.
Ça, le salaire de ton papa suffisait.
Oui, ça suffisait amplement. Et on se contentait de ce qu'il y avait. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais on n'était pas difficile. On se contentait vraiment de ce qu'on avait. S'il y avait, il y avait. S'il n'y avait pas, il n'y avait pas. C'est tout, point. Ce n'était pas la fin du monde. On pouvait s'amuser dans le quartier avec les amis. C'était l'essentiel à ce moment-là.
Quel quartier
était-il ? On était dans le quartier... Ah ben, j'ai toujours été sur Bruxelles. C'est près de la gare du Nord, mais sur Bruxelles. On habitait entre la gare du Nord et avant c'était un grand parc. Maintenant il y a tous des immeubles belgiques comme Proximus.
Ah, oui,
qui a été complètement transformé.
Et après vous êtes allé où avec ta famille?
Pas loin. On était du côté un peu avant Laeken.
Okay.
On est toujours resté là.
Okay. Ta maman quand elle est venue à l'époque portait le voile?
Non.
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 Et elle a pris le voile?
Elle a pris le voile, c'était un voile, elle a mis le voile d'une manière culturelle. Ce n'était pas le voile, je dirais, entre guillemets, islamique, c'était vraiment très culturel. Ensuite, au fait, j'ai eu, vers l'âge de 6 ans, mon voisin a commencé à m'apprendre la calligraphie et aussi les lettres de l'alphabet et un peu le Coran. Et je ne saurais vous dire comment ça s'est fait, hein, sincèrement, mais j'ai commencé à porter le voile à l'âge de 6 ans. et je voulais le porter. Mes parents étaient un peu estomaqués, ils étaient un petit peu dans la peur. Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 moi je veux le porter. J'étais têtue, je voulais le porter. Et j'étais tellement fière, je voulais l'emmener à l'école, bien sûr. J'allais à l'école, mais comme j'allais à l'école catholique, ça n'a pas dérangé, au contraire. Ça a plu. Allez, quand j'étais, depuis toute petite, quand j'allais à l'école, ça n'a pas dérangé à l'école. À certains moments, comme j'étais jeune, je l'enlevais, puis je le mettais, je veux dire, dans certaines activités. Mais je ne voyais pas ça comme une obligation. C'était vraiment, moi, le fait de faire plaisir à mon Seigneur, d'être en communication avec cette spiritualité, même très jeune. Et moi, pour ma part, j'ai eu un questionnement réel que vers l'âge de 13 ans. C'est là où j'ai eu vraiment un questionnement. Tiens, pourquoi est-ce que je le porte? Et si je l'enlevais, j'ai commencé à tester la chose, parce qu'en secondaire, je ne pouvais plus le porter, mais en dehors, je le portais. Et voilà, je me suis vraiment posé la question, je me suis donné un temps, et puis c'est resté naturellement. Je me suis dit, en fait, c'est moi. Je ne sais pas faire autrement, mais c'est moi, quoi. Je suis désolée pour ceux qui sont contre, mais bon,
non, mais c'est
voilà. Ah oui, c'est mon choix. Hein. C'est mon choix parce que c'est voilà. Nous, on est cinq filles à la maison. Je suis la seule à le porter. Donc mes quatre autres sœurs ne portent pas et ça ne dérange pas pour autant. Maintenant, je suis épouse. J'ai une fille. Elle ne le porte pas et je ne pousse pas le cas qu'elle le porte. Voilà, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, moi, je suis d'avis que chacun fait ce qu'il veut.
Justement, cette indépendance qui est souvent pas du tout imaginée par beaucoup de personnes, que c'est un choix tout à fait purement personnel,
oui.
Le port de voile, et qui n'est imposé par personne d'autre,
oui.
Qu'un choix personnel entre toi, oui. Et ta spiritualité.
Exactement, et c'est un choix intime. C'est, bon, je dirais, c'est peut-être triste pour la communauté, pour le monde, parce que c'est visible, mais c'est vraiment un choix qui est intime à chaque personne. Et voilà, tout simplement.
J'imagine que tu vois autour de toi des rapports à la spiritualité avec le voile de façon très différente aussi, parfois à l'extérieur, quand ça devient très austère, etc. Ce que j'entends dans les entretiens, c'est que vous êtes bien au courant qu'il y a des minorités extrémistes.
Exactement,
et,
oui.
Où le choix n'est pas.
Oui.
Il n'y a pas la question du choix.
Il y a une période, c'est vrai, je me rappelle très très bien de cette période. C'était une période où j'étais oui, vachement plus jeune. Hein. C'était à l'âge de mes 16 ans, 17 ans, parce que je me souviens, mes amis ne voulaient pas m'inviter parce que je portais le voile. Ils avaient peur que leurs parents les forcent à porter le voile puisque je portais le voile. Je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais... Oui, j'étais au courant, on est au courant et on a connu aussi, j'ai aussi connu des jeunes filles malheureusement qui étaient forcées à le porter, et bon, dès qu'elles changeaient de quartier, elles l'enlevaient. C'est attristant, c'est affligeant bien sûr, parce que bon, on ne force pas quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, tout simplement. Et c'est un choix tellement personnel, merci. Seigneur Dieu, comment est-ce qu'on peut, je veux dire, comment est-ce qu'on peut intervenir dans ce genre de choses, quoi, c'est...
Est-ce que c'est un combat pour toi ou pas, cette importance de... la liberté, le choix.
Oui.
Tu en parles beaucoup autour de toi.
Oui, 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 oui.
Est-ce que tu
fais
refléter ça aussi dans ton travail ou pas? Enfin, je vois que par exemple, quand tu travailles sur les droits de l'homme, c'est quand même vraiment une réflexion humaniste. Et comme tu dis, un jour, tu as découvert les droits de l'homme, tu as dit, mais tout est là, et tu as commencé à les représenter.
Oui,
oui.
Mais oui, tout a été réfléchi quelque part bien avant nous. C'est là. Pour moi, que ce soit au niveau que ce soit au niveau de la communauté musulmane ou bien autre, hein, je veux dire, j'ai du mal à ce que quelqu'un me force à le porter ou à l'enlever. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on me force à le porter et je ne veux pas qu'on me force à l'enlever. C'est criant en moi et je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça doit faire mal aussi aux jeunes filles qui sont obligées de le porter et à celles qui sont obligées de l'enlever, quoi. C'est terrible. C'est terrible pour elles, parce que bon, c'est vivre dans une prison quelque part, hein. Et c'est vivre en hypocrisie aussi.
Ouais. C'est ça, il y a un grand manque de compréhension. En fait, il y a une énorme ignorance autour de la...
Un manque de compréhension.
Oui,
voilà, de compréhension, mais aussi de respect de l'être humain,
ouais.
Le respect de la femme. Je veux dire, la femme, elle est... je veux dire... Elle porte la vie en elle. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'anodin. pour moi, quand même, à un degré, on devrait quand même respecter cet être vivant qui t'a donné la vie, qui t'a éduqué, et voilà, qui t'emmène au plus loin, qui que tu sois, je veux dire. Alors, non, je... Oui.
Donc, tu te sens concernée aussi pour le combat des autres, enfin, pour la réalité des autres, parce que tu as la chance de...
Parce que je ne veux pas être... Je ne veux pas être enfermée dans quelque chose. Je ne veux pas être enfermée dans quelque chose. Et c'est vrai que l'injustice, c'est quelque chose qui me... C'est ce qui se reflète le plus dans mon travail. Hein. C'est quelque chose de criant. En fait, c'est vrai, quand on est artiste, on met ses tripes, je veux dire, quelque part à l'air, si, d'une manière vulgaire dite. Mais oui, c'est, je peux pas, j'arrive pas à la supporter. Et je me dis, moi, en tant que musulmane, en tant qu'être humain, et en ayant une spiritualité, mon Dieu, je serais jugée pour ma part, pour ce qui se passe, et je n'ai rien dit, je n'ai pas agi. Et moi, mon meilleur moyen d'expression, c'est vraiment l'art. C'est l'art où j'ai trouvé, parce que j'étais plus jeune, on a essayé les manifestations, on a essayé les rassemblements, on a essayé les pétitions, on a essayé, je veux dire, on est passé par un processus de combat qui est un éventail qui est énorme. Et ce que j'ai remarqué dans tous ces processus, c'est que ça heurtait les gens. Ça heurtait, ça leur faisait mal. Alors quand on se penche sur cette question, Seigneur, même en pensant qu'on se bat pour le juste pour nous, enfin pour moi, ça peut heurter d'autres sensibilités qui se sentent vraiment blessées. En réfléchissant à cela, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire passer ce que je veux, mon message, sans pouvoir heurter une autre âme, une autre personnalité, une spiritualité, sans vouloir te faire de mal, parce que ce n'est pas mon but. Parce que mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est vraiment de communiquer et d'être en harmonie avec l'autre. Alors, à ce moment-là, j'ai découvert que, en fait, on pouvait faire passer les choses à travers l'art de manière en douceur. En douceur, et puis, c'est aussi le fait que je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que femme musulmane voilée. Je suis aussi une artiste. C'est ça que je voulais aussi, parce que j'adore parler de l'art et de ce côté-là, et c'est vraiment la passion qui m'anime. Alors si on pouvait me laisser tranquille un petit peu des combats du voile, enfin c'est venu tardivement, hein, je veux dire, cette réflexion, je veux dire, c'est aussi avec l'âge. Oui, j'aimerais, enfin oui, maintenant je suis autre et je suis capable de parler d'autre chose et de faire valoir ma passion, mon art et mes combats à travers l'art. Enfin, j'espère contribuer, mettre une petite pierre, un petit caillou à l'édifice de l'humanité.
Oui, et nous avons eu la chance dans le festival Soul City de rencontrer une de tes professeurs de l'académie,
oui,
adorable, Amel Aran, qui nous a justement dit que tu étais quelqu'un d'extrêmement concentré, pointu et qui allait jusqu'au bout des choses. Et d'ailleurs, ce fait que tu es une femme très en avance dans la modernité, enfin, je veux dire, dans l'art virtuel. Est-ce que tu peux nous parler de tes ambitions, tes pratiques artistiques?
Au fait, j'en ai parlé juste un petit peu récemment, juste un petit peu avant, justement. Au fait, lorsque j'ai une idée de création, c'est souvent lié, ça fonctionne très bien quand c'est lié justement quand il y a un sens, quand il y a quelque chose de pertinent, enfin pour ma part, hein, de pertinent et qui pourrait servir une cause. Ça me branche, je suis tout de suite branchée là-dessus. Je visualise donc mon but et mon œuvre. Mon œuvre, je la visualise sans pour autant chercher à savoir si je vais y arriver ou pas. Parce que souvent, c'est avec des nouvelles technologies. Et ce n'est que par après, je me dis, oh là là, Seigneur, comment est-ce que je vais y arriver? Et bon, ça, c'est juste le temps de 5 minutes, parce qu'après, je dois me mettre au boulot, je dois commencer à étudier les logiciels, je dois chercher comment faire et à travailler et à voir d'autres artistes. Je prends un temps pour les recherches. Et c'est vrai que le moment le plus critique de mes créations, c'est vraiment la recherche. Et cette recherche et l'étude des logiciels, parce que je suis en train d'étudier actuellement les logiciels 3D, parce que je suis extrêmement intéressée par cela, pour pouvoir créer en 3D. Je fais déjà de la peinture numérique et de l'art digital. Disons que ça, c'est acquis. J'ai acquis ça péniblement, je dois l'avouer. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Mais voilà, une fois que c'est acquis, on se sent libre de pouvoir créer de manière, je vais dire, de façon contemporaine et de façon... Et je suis aussi touchée beaucoup par comment toucher la jeunesse. La jeunesse, parce que c'est les êtres humains de demain. Ce sont les hommes de demain, les femmes de demain. Et actuellement, c'est vraiment la technologie, la 3D. Et ça me titille parce que j'adore ça. C'est extrêmement dur. Je suis en train de pleurer devant les logiciels quand je ne comprends pas. Mais voilà, je vais y arriver. J'ai un but. Et je me dis, si je peux associer cela à ma création, c'est, pour moi, c'est, voilà, j'ai tout gagné. C'est extrêmement, extrêmement jouissif, je dois avouer.
C'est formidable.
Ah oui, j'adore. J'adore ça. Pour le moment, je suis en train de travailler sur une très grande œuvre qui a vu le jour dans ce format de papier, quelque part. Sur papier, ce sont les motifs entre l'Orient et l'Occident. Mais je suis en train d'essayer de développer cela pour essayer de réaliser une œuvre en 3D. Mais disons, là, j'en ai déjà un petit peu trop dit, mais je travaille dessus.
En 3D, oui. Pas virtuel. L'impression 3D.
Non, virtuel.
Virtuel,
pas d'impression.
Donc, elle restera dans le...
Dans les réseaux,
oui.
Je vais essayer de créer, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc les NFT, je vais essayer de le transformer en NFT, et donc ça va être vraiment dans une adresse, dans une blockchain, et voilà.
Ça c'est très moderne, je veux dire, moi ça me batte vraiment, mais... Effectivement, tu es quelqu'un de très très engagé. On a eu la chance aussi d'accueillir tes œuvres ici. Certaines œuvres tout à fait virtuelles, des œuvres faites à la main, de Chine, on voit la précision de ta patience.
Mais c'est méditatif aussi, je te
l'avoue. Et chaque œuvre est reliée avec les migrants, les nations, les poèmes soufis et les droits de l'homme. Donc effectivement, tu fais de l'art pour dire des choses. C'est extrêmement riche. Donc, en fait, dans ce parcours-ci, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de femmes sur ton parcours. Par exemple, tu dis que tu partages avec des artistes, que tu cherches des artistes, tu cherches ce qu'ils ont fait, ou est-ce que tu communiques avec des artistes quant à la création ?
Non, parfois, je communique avec des artistes grâce aux réseaux sociaux. Ce ne sont pas forcément des artistes belges. Certains, ce sont des artistes japonais, américains, anglais, pas mal d'anglais, et on se donne un petit peu les avis, chacun donne un petit peu son opinion. Souvent, je leur pose des questions, est-ce que vous pensez que ça ira, ça le fait, et heureusement, j'ai énormément d'encouragement et parfois des petites voix de réflexion supplémentaire. Et ça, c'est très riche. Mais ça, c'est vrai que je le dois aux réseaux sociaux aussi.
C'est,
Le côté positif des réseaux sociaux, oui. C'est vraiment, il n'y a plus de frontières, que tu sois un homme, ou que tu sois une femme, ou que tu sois autre. Il n'y a plus de religion. Non, c'est vraiment l'art et tes créations. Il n'y a rien d'autre qui importe. Et c'est ça l'essentiel. Et on se donne des petits trucs, quand on est en panne. C'est assez chouette.
C'est formidable. Alors, est-ce qu'on voulait voir dans notre question ici ? Et est-ce que tu, actuellement, si on en parlait d'aujourd'hui, est-ce que tu vis des discriminations dans ta vie quotidienne ou dans ton art ? Et si oui, quelle solution tu pourrais y apporter ? Et est-ce que le terme discrimination te semble toujours approprié ?
Je ne sais pas, au fait, dans l'art, c'est assez difficile, hein, parce que discrimination, il y a discrimination sociale également aussi. Le niveau de vie de chacun peut jouer, il me semble, hein, en tout cas. Je sais, lorsque j'expose, ça entraîne énormément d'engouement, mais ça ne va pas plus loin. Il y a énormément d'engouement par rapport aux gens, par rapport, sur le moment même, certaines galeries... sont intéressés, mais pour aller plus loin, ça ne franchit pas. Je ne sais pas pourquoi, en fait, ça ne va pas plus loin. Donc,
bah,
quand leur, le peu que j'ai exposé, parce que je ne cherche pas vraiment à exposer, sincèrement, on vient me chercher du fond de mon atelier, mais le peu que j'ai exposé, certaines galeries ont vu mes œuvres et étaient intéressées. Et me disent, par exemple, on va vous recontacter, bien sûr, on est intéressé par une, par, par une exposition, etc. Mais j'attends toujours. J'attends toujours.
Je crois qu'ils ont tes œuvres et puis te, ils croisent toi et se disent ah, t'es une femme.
Je, sincèrement, je.
Ils bloquent là ou...
Ce serait triste.
Ce
serait triste. C'est pour ça que j'essaye de ne pas l'envisager. Mais au bout d'un moment, on est tellement habitué aux discriminations parce que depuis le jeune âge, on en subit qu'on en fait, on fait même plus attention si c'est une discrimination ou pas. Parce que parfois, je veux dire, on peut nous le faire de manière très directe. Hein, de manière orale, très directe, et on capte pas toujours, enfin moi pour ma part je capte pas toujours parce qu'on est tellement habitué à cela, bah ça plaît pas, ça plaît
les
pas.
Qui les yeux au ciel, qui regardent parce que tu portes un foulard et qui sont
là. Oui, un petit peu déçu.
Ça arrive tout le temps.
Non, pas tout le temps, mais bon, c'est là quoi, c'est de toute façon c'est là quoi.
Est-ce que ça évolue ou pas?
J'ai l'impression qu'il y a une évolution quand même. Il y a une évolution parce que maintenant ça fait quand même pas mal d'années qu'on est là. Je veux dire, en tant que femme voilée.
Il y a plus de portes de voile depuis
oui, voilà.
15 ans. Je dis,
exactement, exactement.
Donc,
à l'époque, je veux dire, j'étais la seule dans toute l'école qui portait le voile. Maintenant, lorsque tu vas dans une école, il y en a quand même déjà beaucoup plus. Hein.
Alors, ça, c'est une question qui nous intéresse aussi par rapport à l'académie, les écoles. Tu dis maintenant, bah, quand tu vas dans des écoles, tu vas dans quelle école?
Actuellement,
oui.
Maintenant, c'est les académies, tout ce qui est horaire réduit.
Ah.
Hein.
Alors, les autres académies, maintenant, est-ce qu'elles admettent et les accueillent maintenant?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais.
Des sondages dans les différentes académies.
Il y a 5 ou 6 ans, avant le corona, il y a une jeune femme qui m'a contactée parce qu'elle essayait de s'inscrire. Elle a été s'inscrire, je ne sais pas si je dois citer le nom de l'académie ou pas, parce que c'est négatif. Enfin, elle a été essayée de s'inscrire dans une académie que j'ai connue lorsque j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, il m'avait refusé. Je lui ai dit, écoute, tu peux toujours essayer, j'en sais rien, peut-être que les choses ont évolué, peut-être qu'il y a eu un changement de direction, que ça a évolué. Elle a été, ils l'ont refusé. Ils l'ont refusé.
Encore maintenant.
Encore, donc, il y a 5 ans, juste un peu avant le corona, quelques années. Donc, oui, oui, voilà. Donc, mais maintenant, actuellement, là, je ne serais pas te dire parce que pour le moment je ne suis pas inscrite parce que il y a avec le Covid il y a quand même une évolution vers tout ce qui est e-learning, l'étude en ligne, et ça facilite grandement pour je veux dire en tant que musulmane, sincèrement ça nous facilite grandement. Malheureusement, bon, il n'y a pas le contact.
Oui, c'est ça.
Il n'y a pas le contact parce que ça c'est nettement plus riche, mais on a accès à une formation. Ça, c'est quand même, c'est pas rien. Par rapport à l'époque, lorsque tu étais isolée, tu étais vraiment isolée. Hein. T'avais pas de... Quand tu n'as pas les moyens de te payer un professeur particulier, c'est pas possible.
Oui, donc il y a personne qui est ouvert à toi, donc tu n'as pas accès à plus de connaissances.
Non.
Tu es loin de toi,
mais... Oui, voilà. Tu t'es donc, vraiment laissé
ça
à...
Ça empêche d'évoluer, en fait. Ça
n'empêche pas, parce que bon, c'est quand même un combat... Sincèrement, c'est un combat que j'ai dû mener quand même de front tout au long de ma vie. Hein,
oui.
Voilà, avec toutes les frustrations que ça donne, hein, aussi. Oui, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je réponds, oui, mais j'ai pas pu aller à l'école. voilà, c'est un peu gênant. C'est...
Mère au foyer.
Oui, j'étais mère au foyer. Mais ça, c'est encore une autre question. Est-ce que c'est gratifiant au sein de la société?
Ah,
c'est ça. Je veux dire, c'est un autre... En fait, c'est le combat de la femme, je dirais, quelque part, tout court, sans même être musulmane, mais c'est vraiment le combat de la femme, il faut valoriser, parce que bon, mère au foyer, c'est tous les métiers à la fois, c'est...
Donc finalement, quand on parle de discrimination, c'est plutôt, ça touche plutôt au niveau du côté de la femme, quoi. C'est une réalité de femme.
Oui. Oui, mais je me voile pas la face, il y a aussi le côté musulman, hein. Ah, ça, je veux dire, ça non, hein. Ça, oui, bah oui. Oui, quand je vais dans les administrations, on fait vachement remarquer, bah non, vous méritez pas, parce que vous portez un voile...
Gagné,
ah non, c'est pas gagné, simplement pour changer une carte d'identité. À l'époque, quand c'était la fin de ta carte d'identité, il fallait la renouveler, c'était problématique parce que ça dépendait sur qui tu tombais au guichet. Il y a des clowns qui te disaient, oui, il faut retirer, il faut qu'on voie la racine de tes cheveux, la moitié de ton voile. On a eu affaire à des choses vraiment terribles. Hein. Maman, elle a été une fois, juste une petite anecdote, maman, elle a été, donc elle s'est retrouvée seule en face d'une personne qui lui a dit, non, on doit voir la racine de vos cheveux, c'est pas possible. Alors maman, elle a mis une espèce de demi-foulard qui ressemblait à rien. Elle avait été convoquée par la police pour une histoire de nationalité, etc. La police, voyant la photo de sa carte d'identité, lui dit, non, madame, vous devez refaire votre carte d'identité. C'est pas comme ça qu'on vous voit dans la rue. Alors, c'est la police qui a écrit un mot à maman qu'on a donné à la commune pour pouvoir avoir une photo de carte d'identité normale pour maman. Voilà, comment elle est représentée dans la rue, qu'elle soit reconnaissable. Voilà, mais vous dire dans quel monde on joue et on jongle. Quand j'étais plus jeune, on m'a refusé, par exemple, de m'asseoir chez manger une glace parce que je portais le voile. Mais c'est parce qu'on n'imagine pas jusqu'où ça a pu aller. C'est pour ça que les petites choses comme ça qui se produisent actuellement, qui ne sont pas très flagrantes, on m'a craché dessus, on m'a frappé, on m'a retiré le voile. Je veux dire, on a insulté mon bébé pensant que j'étais une Belge qui avait épousé et j'ai eu un enfant avec un belgo-marocain, pensant que j'étais d'origine belge, je veux dire de souche, parce que bon, je suis, j'allais dire, blanche aux yeux bleus, voilà, pour très pâle, voilà. Il y a plein de choses, je veux dire, il y a des choses terribles hein, qui se produisent, des insultes dans le métro, dans le bus, parce que tu portes le voile. Quand il y a des attentats, alors là, sincèrement, au début, j'osais sortir, mais maintenant, quand il y a un attentat, je m'isole un peu, parce que on fait...
C'était terrible pour toute la population.
Oui.
On avait parlé en 2016.
Oui.
Alors, avant les questions qu'on a ici, il y a une question qui vient d'un échange avec Swafila, qui disait, et donc on va lui poser la question, est-ce que pour toi intégration égale désintégration?
Question difficile. Tout dépend au sens qu'on donne à intégration, quelque part.
Est-ce que le mot intégration t'a compris?
Parce que, bon, pour moi, intégration, voilà, là, je me sens bien intégrée. Hein. Sincèrement, là, je me sens bien intégrée. Ici, par exemple, à la Maison des communes, je me sens bien intégrée. Et pourtant, je ne suis pas désintégrée. Mais à d'autres endroits, d'autres personnes qui le conçoivent autrement pensent que
Il y a peut-être une injonction qui a lieu au niveau des politiques, les gens doivent s'intégrer,
oui.
les étrangers doivent s'intégrer.
Oui, mais là, il y a une connotation, oui, de désintégration de la personne. Il faut s'assimiler pratiquement et avoir de bons petits soldats, des bons petits
Et
moutons
donc ne pas reconnaître l'identité plurielle, en tout
Non.
cas l'identité qui évolue, puisque si on vient d'ailleurs.
Une sorte de formatage, on doit tous être identiques. Et voilà. Et si on devait être tous identiques, on serait nés tous identiques. Je veux dire, ça me semble tellement évident, parce que c'est un peu utopique, je ne sais pas ce que nos politiques cherchent à ce niveau-là,
Peut-être
mais
de
bon.
moins en moins utilisé. Hein,
Oui,
c'était
ça.
de la jeunesse de la plupart d'entre vous, c'était le terme qui venait,
Oui.
qu'on disait,
Oui, avant,
s'intégrer.
c'était le mot d'ordre. Avant, et puis dans certains pays, ça revient toujours. Hein, je veux dire, en France, ils sont pas gâtés. Hein.
Puisqu'ils ne veulent pas, ils sont vraiment bien, pas mal.
Oui.
Donc, en mots, juste aussi, je voulais savoir si, est-ce qu'au niveau de ta propre communauté, tu sens parfois de rejet ou de la discrimination dans le sens où par exemple, tu es artiste.
Je crois qu'on n'est pas prise au sérieux. C'est pas une question de rejet parce que je suis une femme ou quoi que ce soit, mais je crois que l'art n'est pas pris au sérieux. C'est vraiment une activité de mercredi après-midi, comme je dis. Mais c'est vraiment. J'ai déjà exposé et donc invité certains membres de la communauté. Beaucoup sont dans l'art décoratif, donc ne comprennent pas vraiment le sens non plus et ne donnent pas la valeur qu'il faut à l'œuvre. Mais je crois qu'il y a un travail à mener à ce niveau-là. Enfin, il y a un énorme chantier en réalité. C'est pas un travail, c'est un énorme chantier Parce que.
Mais donc aussi au sein de la communauté
Ah oui,
musulmane,
oui,
je sais qu'au niveau des pyramides, des valeurs, des choses, comment on appelle ça, la pyramide, l'échelle des priorités, des priorités, l'art est un peu derrière, alors que l'art, par exemple, tu le démontres totalement, épanouit tellement, relie au sacré.
Tout à fait. Oui, mais je ne sais pas comment expliquer. Beaucoup sont enfermés encore dans le tabou, dans l'illicite. C'est quelque chose de délicat. Faut pas trop pratiquer ce genre de choses. On peut laisser les enfants. D'ailleurs, il y a un phénomène, hein, à l'académie. Il y a beaucoup d'enfants musulmans, mais arrivés à leur 13 ans, 14, 15 ans, ça commence à diminuer, et puis de moins en moins, et adultes, il y a encore moins d'adultes. Et ils se dirigent aussi, et il y a une direction aussi principalement vers la peinture, l'art premier, qui est la peinture. C'est vrai que dans les ateliers peinture, là, je vois quand même, il y a pas mal de musulmans, mais par exemple, dans le dessin ou dans le digital, ça, c'est déjà plus...
Voilà, mon langue.
Oui, voilà. Mais là, alors, c'est le sens inverse qui se produit. Là, il faudrait.
Tu les connais, ils te connaissent?
Ma fille a suivi une formation chez eux. Oui, il y en a certains que je connais. Certains membres, je les connais très bien parce que, bon, ils ont fait partie, certains ont fait partie de mon ASBL et ainsi de suite. Il y a des connexions.
Oui, mais, parce que là, il y a un terreau créatif et de dialogue et de vertu.
Oui.
Effectivement, on a eu la chance de rencontrer Farine El Asri. Par exemple, la question du chant, la question de la représentation, qui ne sont pas toujours compris.
Non.
Les gens confondent les sourates avec certaines traditions, enfin des informations.
Oui.
Et effectivement, par exemple, on a appris que le slam était une réponse à la possibilité de. Puisqu'ils ne chantent pas, puisqu'ils parlent, d'avoir accès à la musique sans chanter.
Bah. Oui, moi, je ne vois pas de tabou là-dedans. Je vois pas de... On pourrait même chanter. Hein.
Oui,
moi, il n'y avait pas de souci. Hein.
Chez moi, il n'y avait pas trop de tabou.
Non.
Voilà.
Mais
libre d'esprit. Tu nous as dit que ton art t'a aidé à t'assumer pleinement, en tout cas, par l'identité plurielle. Est-ce que tu as envie de dire des mots sur une identité plurielle? Est-ce que tu sens une identité plurielle en tant que.
Oui, je suis d'origine marocaine, mais je suis belge. Parce que le Maroc, sincèrement, j'y étais une année sur deux quand j'étais jeune, et puis encore moins quand je me suis mariée. Il y a cette identité marocaine, elle est là, c'est vrai, mais je me sens dans mon pays, ici. Sincèrement, je le considère comme mon pays. Et puis, quand je reste trop longtemps ailleurs, j'ai une envie de revenir chez moi, où je me sentirai complètement à l'aise, c'est vraiment chez moi, ici.
Tu es belge.
Oui, sincèrement, je me considère souvent, on me le reproche, mais moi, je ne vais pas renier ce que je suis. Je suis vraiment belge, je suis un peu marocaine d'origine, mes parents en tout cas. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien au Maroc et que je partage, il n'y a pas de souci. Mais la mentalité, l'évolution... C'est vraiment ici où je me sens vraiment en harmonie et, je veux dire, enracinée. Je voudrais être enterrée en Belgique, moi. Je le dis. Voilà, ce sont vraiment les deux identités. Et puis, oui, femme, artiste, oui, militante, on peut le dire. J'aimais pas avant, ça. Je sais pas pourquoi, parce que j'avais l'impression que ça m'enfermait quelque part, mais je le suis aussi. Mais pas que. Pas que... Parce que pour moi, par exemple, la spiritualité a une part extrêmement importante. Et à spiritualité, j'intègre là-dedans le militantisme, mais aussi la spiritualité religieuse, la spiritualité poétique. La poésie, c'est quelque chose qui me fait fondre. Donc, c'est pour ça que je l'intègre dans mon art de manière pleinement assumée. Ça, c'est clair. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai l'impression d'aller un petit peu à chaque fois.
J'ai à peu près toutes les questions.
Oui. Peut-être la question du... Si, la dernière, tu vois, sur le... si, puisque on va certainement continuer à travailler ensemble, enfin, on va approfondir tout ça, mais si tu devais choisir une thématique d'une prochaine expo, d'un prochain festival ici chez nous, à la Maison Commune, quel serait ce thème, un thème qui te tient particulièrement à cœur, Fatima?
Oui, c'est et demain.
Et demain.
Et demain. Quoi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça, à se battre les uns contre les autres, ou bien on s'unit pour essayer de sauver la planète? Parce qu'il y a l'écologie, je suis désolée, mais c'est quelque chose de vital, de primordial, et qui est bien plus important que nos petites chamailleries. Je crois qu'on ne se rend pas compte du danger, de qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants. Récemment, j'ai lu une étude où l'eau potable, c'est la première pénurie qu'on va avoir bien avant le pétrole. C'est triste à dire, mais l'eau potable, dans 15-20 ans, ça va être terrible. Et pourtant, pour le moment, qui a la main mise sur l'eau potable? Nestlé. Je veux dire, on doit commencer à réfléchir. Il y a des questions qui sont bien plus importantes. L'énergie, le coût de la vie, tout ça, je veux dire. En tant qu'artiste, on est obligé aussi, parce qu'on était les témoins de l'époque, on est obligé d'essayer d'éveiller les consciences, de réveiller les consciences, peut-être en douceur, mais parfois aussi, je crois, avec un petit électrochoc. Parce que ça, c'est quand même un combat qui est plus vital, quoi, qui est primordial à la vie de l'humanité. Ouais. Enfin, ça englobe beaucoup de choses. Hein. Là, j'ai dit, je crois, beaucoup de choses, beaucoup de thèmes à la fois.
Ouais. C'est très intéressant, parce que justement, voilà, maintenant, avec le projet de SoroCity, une des questions, c'est, penses-tu qu'un art davantage partagé en commun, comme la co-création, pour aussi faire bouger les choses?
Éventuellement, oui. Oui, oui.
Ça pourrait. En mélangeant aussi les publics créateurs. Hein.
Mm-hmm.
On parle de femmes, mais d'être ensemble pour co-créer et dire.
Oui, oui. Tout à fait.
Est-ce que l'idée de co-création t'enthousiasme?
Je ne sais pas, ça dépend avec qui. Parce que voilà, il faut quand même que les affinités se jouent. Mais je pense que oui, je pense que ça peut porter, parce que c'est très difficile de faire porter sa voix seule, mais ensemble, il y a peut-être moyen de faire porter quelque chose, il y a peut-être moyen de faire émerger quelque chose au niveau national et au meilleur à l'international, je veux dire. Oui, parce que ça, il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Et puis le fait d'être aussi à plusieurs peut influencer l'art de chacun.
Oui, mais c'est ça.
On peut s'influencer dans nos arts et apporter un plus. Je veux dire que chacun bénéficie de quelque chose. C'est toujours un enrichissement.
C'est du coaching, en fait. C'est
oui, voilà, c'est aussi un
enrichissement.
Exactement, c'est un enrichissement.
Et aller toucher à autre chose pour revenir à son premier.
Il y a un échange qui se fait, et puis quand il y a un échange, en fait, une personne ne sort jamais indemne de cet échange. Il y a toujours quelque chose. Elle emporte quelque chose avec elle. Elle a donné quelque chose, mais elle emporte aussi quelque chose avec elle. Donc, c'est toujours intéressant.
Peut-être, je pense qu'on a l'opportunité de tenter de créer ici à la Maison Commune, dans le cadre de SoroCity, de la recherche-action à travers la co-création pour effectivement poser des questions. Merci beaucoup pour le thème que tu proposes, qui est beaucoup plus argumenté.
Je pense que là, vraiment, on a.
Mais je pense que Molenbeek peut être aussi un bon moyen. Je veux dire, s'il y a moyen d'accrocher quelque chose avec eux, ils sont très dynamiques et ils ont aussi une vision internationale, et puis ils ont des partenaires internationaux, hein, Google, récemment Microsoft, ils vont ouvrir une antenne à Casablanca. Ils sont à Molenbeek. Il y a un terreau, il y a quelque chose qui peut se faire. Parce que c'est vrai que j'y avais pensé, moi personnellement, j'avais pensé, je me dis, tiens, pourquoi ne pas mêler l'art, parce que je sais, eux, que c'est très l'art, très manga, très. Mais peut-être de développer quelque chose avec eux de manière.
Rencontrer Sarah Lou, qui est la fille de Mama.
Oui,
Oui, je la connais. Oui, je la connais.
Tu la connais?
Oui.
Moi, c'est un groupe très dynamique.
Et c'est bien aussi parce que c'est vraiment un foyer dynamique, jeune, mélangé.
Mélangé, mais c'est ça. On peut rencontrer de tout univers.
Ouais,
c'est vraiment de tout.
Mais c'est ouvert, effectivement.
Mais comme ce sont des plateformes de recherche beaucoup pour les entrepreneurs, il y a énormément de jeunes entrepreneurs dans tous les domaines, mais vraiment dans tous les domaines, et qui touchent absolument à tout. Et ça, c'est intéressant.
Ouais.
D'avoir ce réseau social-là, c'est intéressant. Enfin, je pense. Hein. Parce que moi, c'est vrai, je suis très forte pour donner des idées, mais je ne suis pas du tout. Mais alors vraiment, je ne sais pas me vendre à un point.
Ouais.
Parce que si on pouvait me laisser juste dans mon atelier, en réalité... moi je suis bien, mais voilà, tu es venue me chercher d'ailleurs au fond, hein. T'as accroché avant.
Quelle grande chance de t'avoir rencontré.
Vraiment, ouais. Merci à vous. J'ai aussi
Alexandra Gérassi.
Oui,
j'ai laissé taper un an avant.
Oui, je me rappelle.
Tu m'as tout toujours là. Allez, retourner chercher. Merci beaucoup. Je pense
merci.
Que beaucoup. Tu l'as oui. bien partagé.
Ouais.
Merci beaucoup pour ton engagement, merci pour
merci
temps.
À vous. Enfin,
merci
à vous deux, en tout cas, vous m'avez aussi beaucoup apporté.
C'est vrai. Voilà.
Merci beaucoup.
Voilà. Bye.